L'histoire que nous allons vous raconter commence il y a 35 millions d'années en Afrique. Ce berceau de l'humanité a aussi été bien avant celui des premiers singes. Et ce qui fait l'homme actuel vient de cette histoire faite de multiples rivalités entre les lignées de singes. Le paléanthropologue Pascal Pic raconte dans son dernier ouvrage cette grande saga des singes, des grands singes et des hommes. Il est mon invité dans un instant pour nous faire remonter très loin vers nos origines. Bonjour Axel Villard.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, des insectes qui visiblement nous coûtent très cher.
Hein. Oui Mathieu, puisque selon des chercheurs français, le coût annuel des insectes envahissants dans le monde frôle les 70 milliards d'euros.
C'est beaucoup.
On découvre donc les espèces les plus gourmandes dans un instant à la une de la science.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, ce sera la chronique de santé polémique avec le docteur Dupagne, consacré aujourd'hui cette chronique au dépistage du cancer du sein. Stéphanie Texier réalise notre tête au carré préparée par Chantal Le Montagnier avec Lucie Sarfati et Mahmoud Mebarek.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Pascal Pic.
Bonjour Mathieu Vidard.
L'histoire des premiers hommes, c'est ce que vous allez nous raconter. C'est un livre qui sort chez Flammarion. L'homme ne descend pas du singe. Hein, ça déjà, il faut bien le retenir.
Ouais.
Et pourtant, notre longue évolution s'inscrit dans l'histoire d'une grande lignée de singes africains. C'est compliqué dès le début cette histoire quand même. Hein,
bah, c'est compliqué parce qu'on n'emploie pas le bon vocabulaire. Donc je pensais qu'il était nécessaire de continuer des avancées, des connaissances sur les chimpanzés qui font tellement de choses qu'on croyait strictement humaines. Et on le sait aussi pour les australopithèques comme Lucie, c'était de montrer d'où venait tout cela et surtout pour mieux redéfinir qui sont vraiment les premiers hommes.
Oui, voyage de 35 millions d'années, c'est ça à peu près ?
35 millions d'années à 2 millions d'années, oui.
Ouais, on va donc reprendre le film depuis le début dans le sens de l'évolution, c'est ce que vous proposez pour comprendre d'où viennent ces premiers hommes. Les auditeurs nous rejoignent donc avec les messages et les questions. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Il coûte donc 70 milliards d'euros, rien que ça, l'économie mondiale chaque année. Les insectes envahissants sont à la une de la science aujourd'hui.
En général, ils arrivent par le sol, sous la maison. Et ensuite, ils peuvent emprunter les canalisations ou plus souvent les fils électriques. Mais c'est pas tout. Regardez. Ils creusent aussi des galeries qu'ils recouvrent avec de la terre. Ça forme de véritables tunnels à l'intérieur des murs. Écoutez ça. Ça grignote, hein, ils sont nombreux.
Et ça, ce sont par exemple des termites. Bonjour Franck Courchamp, vous êtes avec nous en ligne, vous êtes directeur de recherche au laboratoire CNRS Écologie, Systématique et Évolution à Paris-Sud. Et vous avez donc supervisé cette grande analyse publiée mardi dans la revue Nature Communication et qui tente d'estimer donc pour la première fois les dégâts économiques que causent les insectes envahissants à travers le monde. Alors vous précisez que ce chiffre de 70 milliards est un minimum. La réalité est certainement beaucoup plus importante encore ?
Oui, beaucoup plus importante puisque... Il y a très peu d'études qui ont été faites sur le coût économique des insectes envahissants.
Mmh.
Il y a plusieurs types de manques dans la littérature. En premier lieu, il y a peu d'études qui sont faites en Europe et encore moins en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique du Sud. Ensuite, il y a beaucoup d'insectes sur lesquels il n'y a aucune étude qui est faite, même certains insectes pour lesquels on sait qu'il y a des dommages très importants.
Mmh.
Et enfin, il y a des types de marchés économiques pour lesquels on n'a absolument pas de données. Par exemple, les pertes sur la biodiversité ou les pertes sur les services des écosystèmes comme la pollinisation.
On peut estimer un coût réel à partir d'une bonne idée de ce qui manque ?
Alors, pour une seule de ces trois catégories, on peut effectivement. Si... Tous les continents avaient fait autant d'études que l'Amérique du Nord, alors on aurait un coût de 270 milliards,
ah oui,
qui est donc aussi un minimum, puisqu'il y a encore des coûts qui manquent sur les types de marchés économiques et sur les insectes. Mais en ce qui concerne le biais d'études, on peut effectivement corriger ça, et on obtient là 270 milliards de dollars, cette fois-ci, par an.
Ce qui est énorme. Alors, quelles sont les espèces qui font le plus de dégâts ? Vous avez établi un podium, quelque chose comme ça ?
Alors, on a effectivement plusieurs espèces pour lesquelles on a des coûts très importants. C'est pas forcément les espèces qui sont les plus coûteuses, c'est les espèces dont les coûts rapportés sont les plus importants. Il y a peut-être des espèces qui sont encore plus coûteuses pour lesquelles on n'a pas d'informations. Mais vous avez cité le termite de Formos tout à l'heure. Il y a également le longicorne brun de l'épinette, qui est un insecte qui vient d'Europe et qui s'attaque aux arbres en Amérique du Nord. Il y a la teigne du chou qui, là, fait des dégâts dans l'agriculture. Donc on a plusieurs types de marchés économiques assez différents pour lesquels on a des coûts qui sont très différents et c'est difficile de les comparer. Par exemple, les coûts sur la santé humaine peuvent parfois être un petit peu moins importants en termes de nombre de milliards, mais c'est uniquement un coût économique. Après, il y a un coût humain qui est très important derrière. Donc tous les virus qui sont apportés par des moustiques envahissants, par exemple... Que ce soit la dengue, la chikungunya, la fièvre jaune, ce sont des coûts très importants puisqu'on les chiffre à près de 7 milliards d'euros par an, mais c'est aussi un coût humain très important qui n'est pas pris en compte dans ce chiffre.
Et une précision encore importante, c'est que vous êtes intéressé seulement aux insectes envahissants. Alors quels sont ces insectes particulièrement, comment on borne les choses ?
Alors, la définition des insectes envahissants ou des espèces envahissantes en général, ce sont des espèces qui sont introduites dans des milieux dans lesquels ils n'ont pas évolué naturellement et qui ensuite s'y implantent, s'y établissent, dispersent et deviennent problématiques. Problématiques soit pour l'environnement, soit pour l'économie. Donc, toutes les espèces introduites ne sont pas forcément envahissantes, mais à partir du moment où on définit qu'elles deviennent envahissantes, c'est qu'elles posent un problème.
Et quels sont les domaines les plus touchés justement par ces dégâts liés à ces insectes envahissants, Franck Courchamp ?
Alors dans notre étude, le premier domaine c'est l'agriculture, ensuite c'est la sylviculture, la foresterie, l'exploitation des forêts. Avec le termite évidemment qui cause des coûts très importants, il y a tous les dégâts aux infrastructures humaines. Et puis il y a les dégâts sur la santé qui sont aussi très très importants. Il faut encore une fois préciser que tous les dégâts sur la biodiversité, les pertes d'espèces par exemple, lorsque certains insectes arrivent et tuent les espèces locales, ou sur les services de la biodiversité comme la pollinisation, ces dégâts n'ont pas pu être chiffrés et ils peuvent être vraiment très très importants aussi.
Alors bien sûr il y a des insectes qui nous rendent des services, par exemple les pollinisateurs. Est-ce qu'on a déjà estimé le gain que nous apporte ce genre d'insectes-là ?
Alors on sait dans le monde que la valeur de ce service gratuit pour l'humanité est de 153 milliards de dollars par an pour tous les insectes qui font cette pollinisation de manière naturelle.
Géographiquement, vous avez beaucoup de données concernant les États-Unis, l'Amérique du Nord, vous l'avez dit. Pourquoi des données surtout aux États-Unis et pourquoi pas si peu en Europe par exemple ?
Alors on a surtout des données aux États-Unis et au Canada, parce que c'est surtout là où il y a des études qui sont faites. Il y a plus de recherches. Il y en a un petit peu moins en Europe, mais il y en a encore beaucoup par rapport aux autres continents, où là, il y a vraiment beaucoup moins de recherches qui est faite.
Franck Courchamp, le réchauffement climatique va avoir un impact particulier justement sur ces populations envahissantes. On s'attend à un accroissement justement des dégâts.
Oui, parce que les insectes sont des animaux à sang froid, donc ils sont particulièrement sensibles au climat, et lorsqu'il fait trop froid, ils n'envahissent pas. Et c'est ce qui protégeait un petit peu l'Amérique du Nord et l'Europe jusqu'à ces dernières décennies, où les hivers ont commencé à devenir plus doux, et où on a donc commencé à voir des insectes qui pouvaient s'établir là où auparavant ils ne pouvaient pas s'établir. Nos études préliminaires font état d'une augmentation de l'aire de répartition des espèces envahissantes, d'insectes envahissants, d'ici 2050, d'à peu près 18%.
Ouais. Donc les projections ne seront pas bonnes, visiblement. Franck Courchamp, en tout cas, merci beaucoup. Entre 70 donc, et 270 milliards, le coût estimé des dégâts économiques des insectes envahissants. Et ça fait l'objet d'une publication parue mardi dans la revue Nature. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Et Axel, on se retrouve demain avec
Au revoir Mathieu.
Allez, dans le reste de l'actualité scientifique, la lune Dione de Saturne pourrait abriter elle aussi un océan souterrain. Si les observations de la mission Cassini sont justes et vérifiées, Dione serait avec Encelade et Titan la troisième lune de Saturne à posséder de l'eau sous sa surface de glace. Enfouie à plus de 100 km de profondeur, ces eaux pourraient entourer la totalité du cœur rocher de Dione. Une proximité cruciale entre l'eau et la roche propice à la vie microbienne, comme le rappellent les auteurs de cette découverte. Et si l'âge record de 122 ans détenu par Jeanne Calment restait inégalé encore pour longtemps, c'est ce que suggère une étude publiée donc ce matin dans la revue Science. Les chercheurs ont compilé les données démographiques d'une quarantaine de pays et montrent que le gain d'espérance de vie constaté depuis 100 ans stagne peu à peu depuis 1997, puis décline jusqu'à aujourd'hui. Deux phénomènes seraient en cause, l'idée que nous atteignons petit à petit à une barrière physiologique, hypothèse très débattue par la communauté des biologistes, mais surtout une dégradation des facteurs environnementaux dans beaucoup de pays développés. Les chances de vivre plus de 125 ans sont seulement d'une sur 10 000. Et puis enfin, plus votre cerveau est gros et plus vous bâillez longtemps. C'est la conclusion originale d'une étude new-yorkaise parue avant-hier. Les chercheurs ont regardé avec passion des heures de vidéos de bâillement d'animaux en tout genre et conclu qu'il existe une corrélation directe donc entre la durée du bâillement et la taille du cerveau de l'animal. Ça c'est pour vous, Pascal Pic. Une découverte qui confirme le rôle supposé du bâillement permettant d'augmenter l'afflux sanguin en direction du cerveau tout en le refroidissant. Et vous pouvez retrouver un montage des plus beaux bâillements du règne animal sur la page Facebook de la Tête au Carré. Un petit commentaire, Pascal Pic ?
Ah, je n'ai pas baillé pendant vos commentaires, mais mon cerveau va bien, merci.
Et vous avez un gros cerveau, visiblement. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler des premiers hommes.
J'ai les yeux qui me piquent. Le loup souffle sur la plaine. Tes lèvres posées sur les miennes. J'ai trouvé le sourire. D'autres ont coulé sous les ponts de la Seine. Hey, we're beautiful. We're beautiful again. We're beautiful again.
Beautiful again, la maison Tellier.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Le grand récit des premiers hommes, c'est l'histoire que vous allez nous raconter cet après-midi. Pascal Pic, vous êtes paléoanthropologue au Collège de France et vous publiez donc Premiers hommes, tout simplement, oui. Chez Flammarion. Longue histoire, on va le voir avec vous. Voilà. Les auditeurs nous rejoignent déjà avec beaucoup de questions sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Des questions sur les hommes et les femmes, mais on va parler de ce qui s'est passé bien avant avec vous. Homo sapiens, notre espèce, nous sommes désormais les derniers vivants sur Terre. Mm-hmm. Vous le rappelez dès le début du livre. C'est d'ailleurs une situation quand même assez incroyable au regard de ce que nous connaissons aujourd'hui de la préhistoire, quand même. Être les seuls là, comme
et
ça.
Et oui, parce que lorsque j'ai commencé à rentrer dans ce domaine de la paléoanthropologie, nous avions des fossiles tous les 300 000 ans, 500 000 ans, et forcément on traçait une grande ligne droite. Et puis à ce travers que je contourne dans ce livre, c'est-à-dire, ben si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Donc évidemment, on imaginait une lignée comme ça qui évolue, qu'on appelait l'hominisation d'ailleurs. On utilise encore ce terme, mais mal compris. Et voilà, Homo sapiens devait arriver. Sauf que depuis une trentaine d'années, on s'aperçoit que pour toutes les périodes de l'histoire de notre famille, qui s'enracine en Afrique, eh bien, nous avons plusieurs espèces contemporaines. Donc c'était un buissonnement. Et du coup, lorsqu'on regarde la situation actuelle, c'est une situation inouïe. Il ne reste qu'une seule espèce, Homo sapiens, alors qu'il y a à peine 30 000 ans, il y avait des hommes de Néandertal, des femmes de Néandertal, bien sûr, Denisova, ouais. Qui sont encore un peu mystérieux, mais on sait qu'ils étaient là. Et en fait, la situation actuelle est complètement inouïe. Et là, c'est dû à notre succès Homo sapiens. Donc, ouais. Nous avons, en fait, par notre succès, contribué à la disparition des autres hommes.
Ouais. Vous dites que c'est un succès, mais est-ce que c'est pas aussi le pire des échecs pour notre espèce, n'être plus qu'une seule espèce aujourd'hui? Il n'y a plus de diversité, quoi, au fond.
Ben, ça pose un problème.
C'est pas le danger qui nous guette,
hein. Ben, si, nous sommes face à nous-mêmes, et en effet, on continue à commettre des bêtises absolument hallucinantes, hein, comme sur la biodiversité. Récemment, on a parlé de la disparition, enfin, éminente malheureusement, des orang-outans et des gorilles. Donc, on est en train d'éliminer les espèces encore les plus proches de nous. Cette entreprise de destruction est quand même assez terrifiante, parce qu'elle est quand même dynamisée par des conceptions du rapport à l'homme, au cosmos, et donc ou de progrès qui sont encore contestés sur le réchauffement climatique aujourd'hui, quand même, ou sur la biodiversité, comme on vient de l'entendre. On voit que tout ceci est toujours là. Et il y a, c'était l'expression de Stephen Jay Gould que je reprends volontiers, une espèce d'arrogance, donc de notre espèce par rapport au reste du monde. Et donc, faut comprendre conscience que moins il y aura de biodiversité, plus nous aurons des difficultés pour les générations futures à s'adapter. Donc ça, c'est parfaitement darwinien, c'est de base. Et Darwin, c'est pas éliminer les autres, c'est vivre avec les autres.
Ouais, c'est quoi? C'est la disparition en moyen terme de notre espèce, à coup sûr?
Ben, bien sûr. Alors, les espèces, ou elles disparaissent, ou elles se diversifient, où elles évoluent.
Mais notre espèce pourrait se diversifier à nouveau ou pas?
Ben non, compte tenu des flux de circulation des individus et des flux de gènes aujourd'hui, évidemment la probabilité qu'un aborigène australien rencontre une femme inuite est quand même assez faible, mais ça peut se faire. Ça circule très vite aujourd'hui, et on va pas avoir une uniformisation de notre espèce, parce que nous sommes 7 milliards, donc ça fait encore pas mal de diversité génétique, mais effectivement, on parlait des insectes envahisseurs. Mmh. Franchement, c'est le scénario qu'on voit dans la dernière série des films La planète des singes, où on voit qu'effectivement un pilote d'avion a contracté un vilain virus et puis se balade. Et ça, c'est le genre de choses qui peut nous arriver avec la grande urbanisation de l'humanité que nous avons actuellement. Maintenant, soyons pas pessimistes, bien sûr, mais en l'occurrence, pour qu'il y ait diversification d'espèces, il faut qu'il y ait à un moment ou à un autre des ruptures de flux génétiques, donc isolement. Ouais. Et donc, on va pas dans ce sens-là aujourd'hui.
Alors, toutes les questions pour l'instant qui arrivent, parce qu'elles sont nombreuses hein, sur le site de l'émission, concernent l'espèce Homo. Hein, donc, évidemment, cette histoire, vous, que vous nous racontez, c'est aussi l'histoire qui précède le genre Homo et qui remonte beaucoup plus loin encore. Et c'est l'histoire des singes, quand même, tout simplement. Hein.
Histoire des singes, mais qui est aussi la nôtre, parce que lorsqu'on est dans le champ de la philosophie, enfin surtout la philosophie occidentale, il y a l'homme et le singe, mais le singe n'est pas défini. C'est comme si c'était l'animal, d'ailleurs, qui n'est pas plus défini. Ouais. Le singe ou l'animal n'est ce que n'est pas l'homme. Alors évidemment, quand moi j'arrive en tant que paléanthropologue et comme mes collègues d'ailleurs, en disant mais non, l'homme fait partie des singes, il faut repréciser les choses, parce que ça peut être très mal pris cette affaire-là.
Ben oui, surtout que vous battez pour bien faire entendre que l'homme ne remonte pas des singes, donc.
Donc on fait partie. Donc ce que je voulais faire dans ce livre, c'est repartir depuis l'origine d'un groupe absolument extraordinaire qu'on appelle les singes ou les simiens ou même les anthropoïdes, pour vous dire comme ils sont proches de nous, et tout ce qu'on partage avec eux, mais surtout une fois qu'on a dit cela, c'est qu'est-ce qui fait vraiment l'homme parmi tous ces singes, et on voit que ceci s'est construit pendant des dizaines de millions d'années, puis à un moment il y a l'homme où là effectivement une autre coévolution s'est mise en place avec le rapport des techniques ou autres, et c'était ça qui m'intéressait de raconter.
Alors on va visiter avec vous cette frise chronologique, mais l'homme il commence où alors vraiment l'homme. C'est quoi un homme?
Il y a exactement un an, et vous le savez, et je crois que vous m'aviez invité, il y a une découverte extraordinaire qui s'est faite en Afrique du Sud.
Au Mont Naledi,
absolument, avec 1500 ossements de 15 individus. Et là, nos collègues sud-africains ont dit, voilà, on a un homme. Sauf que, effectivement, quand on va du bassin au pied, ça va. Au-dessus du bassin, ça ressemble encore à Lucie. Au niveau de la face, c'est assez proche des hommes, mais au niveau de la taille du cerveau, c'est quand même pas extraordinaire. Ouais. Donc lui, il ne devait pas bailler beaucoup,
genre celui-là. C'est ça, Australopithèque, Homo...
Le problème,
donc là
aussi...
Donc là, on est face à la difficulté que représente une définition claire de l'humain aussi.
Oui, non, mais il n'y a pas de souci avec ça. C'est que pendant longtemps, on utilisait des critères discrets. C'est la bipédie, l'outil, tout ça avec des majuscules. C'est la société, c'est la sexualité, etc., etc. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est les bipédies, c'est les technologies. On parlera de l'outil, certainement. On s'aperçoit que l'outil de pierre taillée qu'on a attribué aux premiers hommes, c'est du temps de Lucie, par exemple, découverte récente.
Australopithèque.
Donc Australopithèque. Mais là, en fait, on a fait comme une certaine tradition philosophique, on a mis l'homme, et puis le reste, c'est ce qui n'est pas l'homme. Et bien, on a fait pareil, on a cherché beaucoup les premiers hommes, et c'est normal, il faut continuer, et tout ce qui n'était pas, on le balançait chez les Australopithèques. Donc là, on a tout un travail de redéfinition à faire, ce que j'ai essayé de faire en partie, et les premiers hommes, en fait, c'est tout un ensemble de facteurs. En fait, on retrouve un petit peu ce qu'on appelle aujourd'hui les théories de l'innovation en économie. C'est-à-dire, c'est tout un ensemble de facteurs qui fait qu'on bascule dans quelque chose de nouveau. Donc, les premiers hommes, bien sûr, c'est une bipédie humaine. Alors là, nous sommes les seuls à courir, nous sommes d'assez grande taille, et il est vrai un plus gros cerveau qui n'est pas encore le nôtre.
Donc, c'est le passage vraiment où l'homme s'est relevé.
Ah non, non. Pouf, il a marché longtemps.
Et a marché
plus longtemps. Parle d'une bipédie humaine parce qu'il y a plein d'autres bipédies. Naledi marche debout, très bien. Marche même très très bien, mieux que Lucie. Et les bipédies, on le verra tout à l'heure, ne viennent pas du monde des savanes, donc du passage forêt savane.
Mais c'est vrai, on en a parlé ensemble d'ailleurs dans cette émission. Je vous ai invité la dernière fois, c'était pour ça.
Enfin quoi. Et alors, et très sérieusement, le redressement, et c'est ce que je raconte, vient du monde des arbres. Et donc ça, c'est des choses qu'on connaît depuis pas mal de temps maintenant, mais qui méritaient d'être racontées. Mais il y a une bipédie humaine, donc c'est pas la bipédie, mais il y a une bipédie humaine qui est tout à fait extraordinaire. Il y a l'outil de pierre taillée, ce n'est pas l'homme, mais c'est quand il va inventer augmenter le biface. Donc là, vous avez quand même des capacités cognitives qui sont liées, par exemple, au langage. Vous avez un changement de société, vous allez avoir de nouvelles matières utilisées, le feu va arriver très vite, et à partir de là, l'homme va acquérir une puissance écologique absolument étonnante, puisque d'Afrique, il va aller donc sur l'Europe et l'Asie. Donc c'est pas un seul critère, c'est un ensemble de critères qui fait l'homme. Et là, il n'y a plus de problème à partir du moment où on laisse dans les coulisses ces grands critères qu'on a hérités d'une grande tradition philosophique qui a été utile, mais qui n'est plus utile aujourd'hui.
Sauf qu'avant, effectivement, il y a eu une grande histoire de singes qui nous précède. Et c'est cette histoire aussi que vous racontez, qui a été peu évoquée, au fond. Pourquoi d'ailleurs est-ce qu'on a ce rapport très étrange avec les singes? Vous le dites bien, il y a une espèce de mépris, au fond, pour la question du singe, non?
La culture occidentale n'aime pas les singes, parce que c'est notre dualisme. D'ailleurs, je donne un exemple que j'avais traité dans un autre livre, nos fables de La Fontaine. On sait qu'elles viennent d'Ésope, donc ça fait plus de 2000 ans, et Ésope les avait récupérés de l'Extrême-Orient via l'Inde notamment. Et c'est extraordinaire parce que dans les cultures de l'Extrême-Orient, le singe fait partie des humains. Il est même un dieu, c'est Hanuman, par exemple, en Inde. Mmh. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que les meilleures écoles d'études des singes au monde, ce qu'on appelle l'éthologie, donc primatologie, c'est les Japonais. Parce que eux, ils sont animistes, ils n'ont pas le même rapport que nous à l'animal. Alors c'est intéressant parce que il y a plein de fables qui font intervenir le singe chez La Fontaine, on les a jamais apprises. Il y en a 9 exactement. Ouais. Et c'est intéressant parce que le singe est toujours au plus près des dieux, au plus près du pouvoir, au plus près du roi. Le renard ne prend jamais le pas sur le singe. Mais néanmoins, on ne les apprend pas parce qu'il y a une espèce dans On y soit le singe, c'est en fait, comme disait Buffon, le masque trompeur de l'homme. Et donc même les naturalistes en ont mis une couche dans cette affaire-là. Et donc il fallait redécouvrir cela, et c'est pour cette ça, je me suis dit, venez voir, comme Saint Thomas, venez voyez, et vous allez voir comme ils sont extraordinaires.
Ouais. Alors justement, il y a toute une histoire aussi avec la primatologie française qui découle directement de ce rapport très ambigu avec les singes.
Alors on a une très très belle école, notamment, je citerai Sabrina Krief, qui vient d'être nommée professeure.
Il y en a plein d'autres. Mais c'est la jeune génération, ça.
C'est la jeune génération. Bah écoutez, je ne vais pas paraître immodeste, mais on a parlé des grands singes en France lorsqu'il y a presque 20 ans déjà. J'avais fait une grande émission sur Arte, Le singe chez Tom, où c'est là qu'on va découvrir France de Waal, etc., etc. J'en suis très heureux.
Mais il sera avec nous lundi d'ailleurs, François, dans l'émission.
Très bel ami. Et donc, très clairement, nous avons des équipes et des chercheurs et des chercheuses absolument formidables en France, mais on n'a pas d'école constituée. Donc là, il nous reste à faire la synthèse créatrice, comme je disais, mais ce n'est pas encore quelque chose qui est bien représenté au niveau académique.
Allez, Pascal Pic, avec vous, nous allons faire un bond de 35 millions d'années. Ce sera dans la deuxième partie de ce dossier. Frank Sinatra, Frankie, me boy, don't know, you have a perfect voice to sing calypso. What did they say? Frankie Sinatra, Frank Sinatra, Frankie, me boy, don't know, you have a perfect voice to sing calypso. What did they say? Frankie Sinatra, Frank Sinatra, Frankie, me boy, don't know, you have a perfect voice to sing calypso. What did they say? Frankie Sinatra, Sinatra, Frankie, me boy, don't know, you have a perfect voice to sing calypso. What did they say? Frankie, me boy, don't know, you have a perfect voice to sing calypso. Office worker, he's office worker. Please, Mr. Officer, I only had some vodka, little marijuana, just a few bacon and only reaper. Circle my head while I'm driving. Play a registration, OG license. Cause of that interior, your bitch wanna ride it. Great red bow tie, dick got low jack. White House somewhere to do what? Whatever. Modern day Sammy had a roll with that Sinatra. Off a pasta sprayer in her mouth like Monaco. Listening to salsa, rhythm of maracas. M.I.A. on the coke, sipping that Sri Lanka. I divide and conquer, blowing Willy Wonka. Baby mama wanna suck the down up at the concert. And they ditch no pay like Frank Sinatra, bitch. I do this shit my way. Like Frank Sinatra, bitch. Do this shit my way. Sing calypso. What did they say? Frankie Sinatra. Frank Sinatra. Frankie, me boy, don't know. You have a perfect voice to sing calypso. What did they say? Frankie, me boy, don't know. You have a perfect voice to sing calypso. I'm so high, you're so high. If I take another sip, then I test my die. Take another sip, then I test my life. Tell her what she wanna hear just to get between them thighs. Underground, make up on top of the world. My way, like Frank Sinatra, bitch, did this shit my way.
the days when Frankie Crocker rock. From a stocky stock, known for his illy right hook to make Rocky block. That's no poppycock pirate. We can keep it irie, or we can keep it irie. Tidely, we'll keep it 100. From the heights and all the lights, selling coffee muffin. Come with that headbanger booty for that ass. Will I give a bully 10 noogies for the cash? Dash, dip slow on a marathon. Or maybe he goes in Calypso like Farrakhan. Or Frank Sinatra, man.
Docteur Zaius, regardez-le bien, j'ai l'impression qu'il vous répond.
Ah, il a un don d'imitation assez remarquable, en effet.
Il n'est pas du tout comme les autres. Il se sert de cette vieille couverture comme vêtement. Je me demande ce qu'il donnerait si on lui faisait passer le test d'Hopkins sur l'habileté manuelle.
Bon, un animal.
Regardez, il bouge ses doigts.
Simplement parce qu'il vous a vu bouger les vôtres.
Oh, mais il a peut-être compris.
Sottise, l'homme est incapable de comprendre. Tout au plus arrive-t-on à leur apprendre quelques tours faciles, mais c'est tout.
Je crains de ne pas pouvoir être d'accord, Excellence. D'après mes expériences...
Docteur Zira, je vous mets en garde. Que vous fassiez des expériences chirurgicales sur le cerveau de ces créatures est une chose, et vous avez mon agrément. Mais vos études sur le comportement de l'homme ne me disent rien qui vaille. Prétendre que nous pouvons apprendre quelque chose sur la nature simiesque qu'en étudiant un homme tient de la fantaisie la plus échevelée. Plus tôt nous l'aurons exterminé, mieux ça vaudra. Vous le savez aussi bien que moi. C'est une question de survie pour les singes.
Voilà, Pascal Pic, intéressant hein, d'inverser le miroir grâce à la planète des singes. Hein.
Alors cet excellent ce passage, parce que c'est pas tellement connu en France, ça s'appelle le canon de Morgan. Lyon Morgan était un psychologue du temps de Charles Darwin. Enfin, Darwin venait juste de décéder, il l'a à peine connu. Et il disait que lorsqu'on analyse un comportement d'un animal, il fallait toujours rechercher l'explication de plus bas niveau, en un mot les instincts, alors que dès qu'il s'agit de l'homme, on va chercher une explication d'ordre supérieur, donc cortical ou autre. Et donc là, ce qui est génial dans la planète des singes, c'est que Pierre Boulle, il fait un truc tout con. Hein. C'est vraiment hyper simple. Il retourne la situation. C'est-à-dire, et d'un seul coup, ça devient absolument insupportable. Ouais. Et là, à partir de là, c'est intéressant, parce que ça fait écho au dernier livre de Franz Zeval, « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre les animaux ?» Eh bien, on a eu un bel écho là.
Ouais, absolument. Et c'est toujours intéressant de voir les choses de l'autre côté, hein, du côté des animaux, et de se mettre un peu à leur hauteur aussi. Alors cette histoire des premiers hommes, faut qu'on y vienne vraiment parce qu'elle commence il y a très longtemps, 35 millions d'années. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là, d'un point de vue même géologique, environnemental, climatique, sur la Terre?
C'est un événement qu'on appelle la grande coupure, qui touche plus les contrées autour de la Méditerranée, mais c'est un événement global, on le sait maintenant, puisque l'Antarctique se sépare donc de l'Australie et de l'Amérique du Sud. Se mettent en place des courants marins autour de l'Antarctique. Et là, vous avez un immense glaçon qui se met en place, donc c'est la calotte antarctique. La température moyenne de la Terre chute de 10 à 15 degrés en moyenne.
En combien de temps ça se passe, ce
phénomène? C'est quelques millions d'années, mais c'est quand même un événement géologique brutal à
donc
cette échelle.
Donc 15 degrés en moins, boum.
Boum. Et donc là, effectivement, niveau des mers baisse. Et les forêts qui se répartissaient auparavant d'un cercle arctique à l'autre, donc on avait plein de primates, plein de primates, donc c'est le groupe auquel on appartient. Et après la grande coupure, donc ces forêts vont se refermer, enfin se rétrécir sur la bande des tropiques, et c'est là que vont émerger donc ce groupe des singes ou anthropoïdes qui va, comme on va le voir, bouleverser l'ensemble de l'écologie des forêts et de la biodiversité.
Tout se passe dans la forêt.
Tout se passe dans la forêt.
On n'est pas encore dans la savane.
Oh, pas du tout. Alors là, ça va prendre du temps avant la savane. Et là apparaissent ces singes. Alors c'est quoi les singes? Eh bien, écoutez, si vous en doutez, vous en regardez devant une glace là.
Ouais.
Donc c'est quoi? C'est des yeux de part et d'autre de la racine du nez. La vision colorée et en relief, avec un système optique assez particulier. Et par ailleurs, c'est une face dépourvue de poils dans son milieu, un vrai nez, il n'y a pas de truffe, deux narines bien circonscrites, 32 dents comme vous, deux incisives, une canine, deux prémolaires et trois molaires, un système auditif qui est exactement comme le nôtre, et par ailleurs, le cerveau est plus gros à taille égale que les autres mammifères qui sont quand même assez smart aussi.
Ouais.
Et puis surtout, c'est un centre de gravité du corps qui est situé au niveau du bassin, ce qui permet de se relever beaucoup plus facilement. Et ça va être extrêmement utile pour se déplacer dans les arbres, et évidemment des membres terminés par 5 doigts.
Ouais.
avec le premier qui s'écarte et terminé par des ongles. Voilà ce que sont les singes, avec d'autres innovations qui sont absolument exceptionnelles, notamment au niveau social, puisque les singes, à partir de là, vont vivre que de jour. Dès que vous croisez un mammifère, même dans nos contrées la nuit, dans les phares d'une voiture ou d'une lampe torche, vous avez le fond des yeux qui se réfléchit. C'est assez impressionnant parfois même. Alors un lapin, ça va, si c'est un loup, c'est une autre histoire, mais c'est le même phénomène. Et nous avons perdu cela. Et donc, nous sommes des espèces qui vivent exclusivement de jour, ce qui donne des avantages pour vivre en groupe, pour vivre en société, pour exploiter les écosystèmes et se déplacer, notamment dans le monde des forêts. Et puis, par ailleurs, nous allons coévoluer, ça c'est absolument formidable cette histoire-là, avec le monde des fleurs et surtout des fruits. Et par exemple, nous les singes, nous ne synthétisons pas la vitamine C, parce que les fruits nous le donnent. Et vous savez, un truc tout bête que j'explique, ça vous semble tout simple cette histoire-là. Prendre votre main, saisir un fruit, l'amener vers votre bouche, en inciser un morceau avec vos incisives et ensuite broyer les chairs, c'est une mécanique absolument extraordinaire puisque tout animal, vous savez, met la gueule vers la nourriture et nous sommes capables de manger des fruits de grande taille parce qu'avec la main on les saisit et on peut en tirer des morceaux. Et ben ça, c'est tout bête, ça nous donne un avantage extraordinaire sur les autres espèces.
Et la mastication en particulier chez le mammifère primate, ça c'est vraiment quelque chose qui le distingue des autres.
Ça a été mes recherches du temps où j'étais un peu plus jeune. Donc, la biomécanique masticatoire. Ouais. Alors, par exemple, nous avons une mandibule qui n'est faite que d'un seul os. Elle est soudée au niveau du menton, ce qui n'est pas le cas des autres espèces. Et le frontal est aussi soudé. Et ça, c'est lié à une mécanique masticatoire avec des muscles masticateurs qui sont très compliqués. Vous prenez un carnivore, qu'est-ce qu'il va faire le carnivore? Il va ouvrir la gueule, il va choper une proie, et ensuite, il va déglutir de gros morceaux. Les carnivores ne mastiquent quasiment pas.
La viande, c'est pas facile. Même pour nous, mastiquer
on le fait, mais un cheval, par exemple, lui, bon, le devant ou une vache, c'est pas génial au niveau des incisives. Par contre, il y a une machine masticatoire derrière. Nous, on est capable de manger toutes sortes d'aliments protégés physiquement ou même chimiquement dans certains cas. Et surtout, on est capable de manger toutes sortes de nourriture puisque nous avons un atelier dentaire absolument fabuleux et qui nécessite d'ailleurs au niveau du cerveau des capacités proprioréceptives qui sont extrêmement complexes. Voilà ce que sont les singes.
Alors justement, il y a cette diversité aussi des singes à l'époque, Pascal Pic.
Ah oui, parce que, alors, on n'a qu'un seul site majeur, qui est au Fayoum, donc au pied de la pyramide de Gizeh, où là, on a découvert plusieurs dizaines d'espèces.
Il y a des fossiles extraordinaires.
Alors, un des premiers singes s'appelle Aegyptopithecus zeuxis, donc le singe d'Égypte. Voilà, et qui présente les caractéristiques que j'évoquais. Il n'a pas encore complètement les orbites en façade, mais c'est l'étape suivante qui va arriver rapidement. Donc, il y a une grande diversité. Il y a plusieurs lignées qui sont représentées là. Certaines vont se retrouver en Afrique du Sud, mais là, on ne va pas s'intéresser à eux. Et d'autres vont se déployer, vont disparaître. Et puis, c'est là, dans cette lignée des africaines qui est issue donc d'une période qu'on appelle l'Oligocène, donc lui date environ de 30 millions d'années, que vont émerger donc les singes hominoïdes. Et là, on va être beaucoup plus proche de nous.
Alors justement, quel est le degré de proximité? Vous parlez des grades évolutifs. Faut préciser peut-être cette chose-là, qui est importante.
Alors, je redéfinis les grades d'une manière un peu plus moderne. C'est-à-dire, c'est essayer de comprendre comment, au cours d'une période, on a un ensemble d'adaptations qui, une fois de plus, mises ensemble, font qu'on a un groupe d'espèces. Alors, ces caractères peuvent être plus ou moins prononcés selon les espèces, mais l'ensemble fait que on a l'émergence d'un ensemble d'espèces dont l'impact adaptatif est absolument nouveau par rapport à ce qu'on connaissait avant.
Ouais. Et on passe de grade en grade.
Oui, c'est ce que j'ai fait.
C'est ça, exactement. Il y a une vitesse d'évolution où c'est très différent selon les époques et en fonction de quoi, justement, on passe d'un grade à un autre.
En fait, à l'époque de l'Oligocène, donc en Afrique, là, on a vraiment l'émergence donc des singes ou des anthropoïdes. C'est la période suivante, toujours en Afrique, qu'on appelle le Miocène, où là, grande surprise, on voit se déployer donc le grade suivant, qui est celui des hominoïdes. Les hominoïdes actuels sont l'homme, le chimpanzé, l'autre chimpanzé, qui est le bonobo, gorille et orang-outan. Et ce qu'on sait depuis 30 ans, mais c'est pour ça qu'il fallait raconter cette histoire, elle n'avait pas été évoquée. C'est notre groupe à nous, qui est en fait très peu représenté aujourd'hui, qui se redéploie, donc on a un nouveau grade, où là ils vont acquérir de plus grande taille, une face plus large, des caractères anatomiques plus fins que je peux évoquer, mais qu'en fait, qui se rapprochent de ceux qui sont les nôtres aujourd'hui, mais l'ensemble des hominoïdes, bien sûr, actuels. Et par ailleurs, ils vont avoir une plus grande taille. Or, avoir une plus grande taille dans les arbres, ben, ça commence à compliquer un peu la vie pour se déplacer. Et c'est de là qu'on va avoir se mettre en place des répertoires locomoteurs, où là, ces hominoïdes, ils sont assez diversifiés. Ils s'appellent Proconsul, ils s'appellent Morotopithecus, ils s'appellent Heliopithecus, il y en a plusieurs, en fait. Et on s'aperçoit, et c'est ça la grande surprise, en repartant du pied de l'arbre de notre famille, que notre famille a été beaucoup plus diversifiée et riche il y a 20-25 millions d'années qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Ouais. Donc ça, c'est 20 millions d'années.
On est autour de 20 millions d'années, pour faire simple. Et on est toujours, et là, on est toujours en Afrique. Et là, on commence à en voir certains qui manifestent des comportements pour se suspendre. C'est-à-dire qu'on est de grande taille, est au-dessus de la branche, c'est moins évident. Donc, on commence à se suspendre, se mettre sous la branche, donc s'accrocher, se suspendre. Et d'autres qui sont plus massifs, plus terrestres, comme les proconsuls. Donc, certains font 90 kilogrammes. Et qui, eux, vont commencer à exploiter des niches terrestres. Donc, ils commencent déjà, et ils ont, en fait, occupé déjà presque toutes les niches écologiques dans les arbres. Ouais. Et ils commencent à explorer et occuper le sol.
À partir de quand ils commencent à voyager, donc nos lointains ancêtres, hein, je ne sais pas s'il faut dire les choses comme ça, mais
oui, c'est un groupe ancestral. Oui.
Et même à sortir d'Afrique, parce qu'on s'aperçoit, et ça c'est intéressant de dire cette histoire, parce que nous, notre berceau, il est africain, mais il y a eu quelques allers-retours en Europe avant ça. Hein.
Ah ben c'est l'expression, on appelle ça l'hypothèse du ticket aller-retour. Et donc nous avons cette, on appelle ça une radiation natative, ça veut dire ce que ça veut dire, donc de nos ancêtres hominoïdes, dont nous sommes les représentants aujourd'hui. Et puis, il va y avoir un événement important, toujours pareil, ces fluctuations climatiques. Et là, c'est toujours à cause de l'Antarctique. On sait maintenant qu'il y a une petite période de réchauffement climatique. Mmh. Hein. Après la grande coupure, globalement, le climat se refroidit pour aller vers les âges glaciaires. Mais tout ceci n'est pas linéaire, bien sûr. Donc, il y a une période de réchauffement qu'on appelle l'optimum climatique du Miocène moyen. Où là, à partir de ce socle, enfin de ce tronc commun des hominoïdes africains, ils vont se disperser rapidement. Il y a une première petite vague, mais on a peu de fossiles qui va vers le Pakistan autour de 19 millions d'années. Ouais. Alors après, à partir de 16 millions d'années, eh bien, nous sommes sur la vraie planète des grands singes hominoïdes. Où là, on les a en Afrique, mais c'est un peu plus dispersé, mais surtout en Asie. Et là, des découvertes récentes depuis 10 ans, une magnifique diversité écologique en Europe.
On en parle dans un instant avec vous, Pascal Pic.
Et superbe à la fois, un peu perverse, d'accord, pourquoi pas, moi je dis pas non. On pourrait, si tu veux, faire un tour dans la pétroleuse, et puis après, petite carrière, moi je suis pas contre m'endormir avec toi. J'ai un truc plus que parfait, si tu veux laisser. Yeah. Attends, j'ai mieux que ça. Moi, je pourrais te caresser là. Quant à toi, tu pourrais me caresser là. Ensuite on se mettrait dans des positions indélébiles. On m'a parlé de 69, trop jeune moi, j'ai bien connu 99. C'est agréable ma foi, à l'endroit, moi je suis pas. Une belle fille comme toi, avec un formidable comme moi, balancé comme une bouteille à la mer. Moi, je dis pas non, une belle fille comme toi, avec juste ce qu'il faut de cervelle. Mais bon, pas trop siphonné quand même. Moi, je suis pas contre. Je vois que tu me dois où il fallait pas, c'est ça, hein, toucher la corde sensible. Ah, oh, mademoiselle avec prétention.
Elle est Little Rabbit, une belle fille comme toi, dans cette tête au carré avec Pascal Pic pour parler des premiers hommes. C'est un livre qui sort chez Flammarion. Et petit détour sur l'année 1961.
C'est à l'extrémité d'une fusée Redstone, haute de 17 mètres, qu'a été placée la capsule Mercury, dans laquelle a été placé un chimpanzé de 16,5 kg, haut de 90 cm, âgé de 3 ans et demi, et né au Cameroun, annonce la NASA. Une caméra de télévision a envoyé vers la Terre les images de ce vol, qui doit précéder de peu le lancement d'un homme dans l'espace, puis sa mise sur orbite de la Terre. La NASA a choisi un chimpanzé en raison de ses réflexes très semblables à celui de l'homme. D'autre part, le singe a échappé plusieurs minutes à la pesanteur. Mais la capsule ayant améri à 650 km de son point de départ, c'est-à-dire à plus de 200 km plus loin qu'il n'avait été prévu, les navires de la marine américaine se précipitent vers le point de chute. La capsule n'a pas encore, pour le moment, été récupérée. Ici Pierre Clanès à New York, à vous Paris.
Bien, souhaitons que la marine américaine arrive à temps pour sauver ce chimpanzé. Ce pourrait être, faut-il le rappeler, un homme.
Eh ben oui, évidemment. Homme et chimpanzé, proximité et grand affect aussi. Hein.
Ah ouais, mais qu'un chimpanzé est réalisé en premier un rêve humain, franchement, c'est extraordinaire.
Ça. Et voilà, c'est ça, il l'a fait avant nous. Est-ce que les origines de l'homme sont africaines ou asiatiques, cher Pascal Pic?
Alors,
parce qu'il y a des fossiles récents qui sont intéressants là aussi, hein, sur l'Asie quand même. Hein.
Absolument. Alors, ce qui se passe, effectivement, c'est que on sait que la lignée humaine commence en Afrique vers 6-7 millions d'années. Et donc, j'ai voulu, moi, prendre un peu plus de recul pour exposer un petit peu comment cette lignée, qui est humaine, là, on sait, à partir de 6-7 millions d'années, avec Toumaï, Aurorine, Ardipithecus est plus en question, mais en tout cas, on n'est pas loin. C'est qu'effectivement, les grands singes, donc, vers 17 millions d'années, sortent d'Afrique. Et pendant ce temps, en fait, on a un vide de fossiles. On a pas grand chose en Afrique entre, on va dire, 15 millions d'années et, enfin, 12, 13 millions d'années et 6 millions d'années. Donc, la question se pose, est-ce que ce tronc commun n'aurait pas été, une lignée qui se serait déployée, on l'a pensé une époque en Asie, mais là, en Europe, avec les nouvelles découvertes en Espagne. Et c'est là qu'on trouve un superbe fossile qui s'appelle Pyrolapithecus, donc de Catalogne. Donc,
ça, c'est quoi, 12 millions d'années?
On est autour de 12 millions d'années. Hein. Et là, en fait, on s'aperçoit qu'en Europe, nous avons eu une diversité formidable d'hominoïdes, donc très proche de nos origines communes avec les chimpanzés actuels. Et là, on s'aperçoit que certains commencent à se redresser, donc à se suspendre. Donc, on appelle ça être orthograde. Donc, pronograde, c'est comme tous les animaux quadrupèdes qui nous entourent. Donc, ils se déplacent à quatre pattes. Mmh. Et orthograde, ça veut dire comme orthogonal. Donc, ça veut dire qu'ils se redressent. Et là, le redressement du corps, pour certaines lignées, bien sûr, va se faire d'abord dans le monde des arbres. Donc, et c'est pas paru qu'une fois dans l'évolution, il est rare qu'une grande adaptation apparaisse d'une manière unique. Et donc, il y a une grande diversité de répertoires locomoteurs qui, on le sait maintenant, associe un cervelet absolument extraordinaire. Parce que on vit dans des espaces à trois dimensions. Et ce cervelet qui est connecté, on sait maintenant, à l'ensemble du corps. Chez nous, c'est 70 milliards de neurones. Nous avons, nous, les grands singes et les hommes, le cervelet le plus complexe parce que nous avons l'habitude de nous déployer dans un espace à trois dimensions, de prendre des risques, de sauter, de s'attraper, de se suspendre. Donc, nous sommes, nous, les grands singes, les mammifères qui ont le répertoire locomoteur le plus complexe.
Ouais. Et l'Asie, alors, Pascal Pic?
Alors, en Asie, on le sait maintenant, ce sont les ancêtres des orang-outans d'aujourd'hui. On les appelle Civapithèques, on les appelle Ramapithèques, on a d'autres aussi. Et il y a aussi les gigantopithèques, donc singes géants, qui seront en fait les yétis.
Oui, ce sont des gorilles, hein, c'est ça?
Ah non, c'est des grands orang-outans.
Des grands orang-outans.
Ah non, faut oublier l'image de Tata
Miu. Il n'y a pas un gigantopithèque aussi qui est
c'est ça,
très
c'est
gorille.
Gigantopithèque, ouais. Ouais. En fait, c'est un super orang-outan.
C'est ça.
C'est un super orang-outan. Et d'ailleurs,
c'est combien 500 kilos à peu près?
Ah non, autour de 300, ce qui est déjà tout à fait honorable.
Bon,
ouais.
C'est pas mal.
Bon, il mangeait des bambous, il devait être paisible. Bon. Et en fait, il s'est fait piquer sa niche écologique par les pandas. Vous voyez, comme quoi, faut se méfier.
Bon. Est-ce que notre histoire évolutive peut nous en apprendre sur notre futur, demande Ludovic? Comment notre lignée va évoluer? Qu'est-ce qu'on peut dresser comme portrait?
Ça, je ne sais pas, mais il faudrait commencer peut-être à parler des premiers hommes avant, donc je veux bien y répondre.
Non, mais quand même, est-ce qu'on a déjà des indices futur?
Écoutez, récemment, j'étais avec Laurent Alexandre, qui parle beaucoup de transhumanisme. On se pose ces questions, et on voit bien qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans une troisième coévolution où les technologies vont rentrer dans nos corps, si ce n'est déjà le cas. Et donc, effectivement, ça pose de vraies questions. Comment sera l'humain de demain? Comment seront nos enfants? Et soyons très clairs, c'est un environnement que personne ne connaît. Donc on sait que ça va changer, mais dire comment ça va changer, ça va être un peu plus difficile.
Pascal Pic, vous dites la lignée humaine commence il y a 7 millions d'années à peu près, donc c'est Toumaï, par exemple.
Autour de Toumaï, oui.
Ouais. Mais alors, l'homme, lui, le genre homo, c'est la vraie lignée humaine, pourtant, ça, non?
Alors, ce qui se passe, c'est que la Terre se refroidit à nouveau à partir de 13 millions d'années. Les grands singes vont refluer certainement une partie d'entre eux de l'Espagne sur l'Afrique, et là, ils vont prendre souche, et on aura donc les premiers représentants de la lignée humaine, qu'on appelle les hominidés, cette fois. Et là, nous avons Toumaï, qui reste le meilleur candidat actuel.
Ouais.
Nous avons Ororine, qui marche très bien au Kenya, mais qui certainement est une autre lignée. Et puis Ardipithecus, autour de 5,5 millions d'années, qui est en Éthiopie. Et là, vous voyez, c'est ça qui est assez étonnant. Tous marchent debout, et Ardipithecus marche pas mal debout, même pas mal d'ailleurs, et en l'occurrence, ces caractères crâniens le rapprochent des chimpanzés. Donc ce qui est en train d'émerger aujourd'hui, c'est que les bipédies étaient certainement beaucoup plus fréquentes qu'on l'imaginait, mais on manque de fossiles, mais d'un seul coup, ils sont tous bipèdes. Donc quand vous avez plein de diversité comme ça, c'est que c'est plus ancien, c'est une lapalissade. Et par derrière, par contre, il semblerait que, ou de l'autre côté, que Ardipithecus, ce soit en fait une lignée proche de la nôtre qui soit reparti dans le monde des arbres et qui aurait perdu les bipédies, avec aujourd'hui les bonobos qui sont plus graciles, qui sont plus bipèdes, les chimpanzés un peu plus massifs qui sont moins bipèdes et les gorilles qui sont les moins bipèdes.
Et alors toute cette histoire, ça s'est passé à l'ouest et à l'est de l'Afrique, finalement. Donc l'Histoire Story, c'est terminé?
L'Histoire Story, elle a basculé, c'est-à-dire que quand Yves Coppens s'est mis en place cette hypothèse, c'était absolument remarquable. Je rappelle que c'était le premier modèle testable que nous avions eu depuis Darwin. Et donc à l'époque, tous les fossiles, les Australopithèques, qui est de notre lignée, était bipède et à l'est, et le reste était à l'ouest. Et aujourd'hui, ça s'est inversé, mais le schéma reste fondamentalement le même du point de vue de l'évolution, sauf qu'on inverse l'est avec l'ouest pour l'instant.
Alors, des questions plus sur le genre homo. Véronique nous dit ceci, est-ce qu'il n'y a pas un affaiblissement physique aujourd'hui entre les premiers hommes et les sapiens que nous sommes devenus, parce que nous sommes de plus en plus coupés de la nature?
Ouais. Alors, les premiers hommes, c'est Homo erectus, parce qu'on a beaucoup de discussions, c'est ce que je fais dans ce livre, avec entre Homo naledi, Homo habilis, etc., qui font l'objet de beaucoup de controverses.
Donc Erectus.
Mais Homo erectus, là, au moins, tout le monde est d'accord. Ouais. Ok, on a des voisins. Et là, c'est du costaud. C'est du costaud. Il est bipède. Je rappelle aussi que l'homme, le genre homo, c'est le seul animal qui peut courir 40 km par jour quand on s'entretient, évidemment. Mm-hmm. Donc, je vais revenir sur ma réponse si ça se dégrade. Et on a eu une période où, effectivement, ces hommes sont devenus très costauds. Une chose étonnante, qui est rarement dite, c'est que nous avons un système locomoteur très, très simple. Nous n'avons qu'une seule allure, qui est le trot. C'est-à-dire, on bouge, on avance la jambe gauche, on avance le bras droit, ce qui est rééquilibre, etc. Et donc, nous avons une physiologie particulière, avec des glandes sudoripares. On peut choisir notre rythme respiratoire. Et l'homme homo va avoir une puissance écologique énorme, puisqu'il va inventer la chasse à courre, la chasse par épuisement. Ouais. Et là, aucun animal ne peut nous résister. Et donc, cet homme va être costaud, ils vont se déployer, bien sûr. Et l'homme aussi, c'est important, c'est le premier grand singe qui s'affranchit du monde des arbres. Donc il y aura ses techniques, les habitats, le feu. Donc ils vont se déployer et ça va donner plus tard, donc vers la fin de la préhistoire, sur le nord de l'ancien monde, donc les hommes de Néandertal qui étaient très costauds, on a les Homo erectus au sens strict d'Asie qui sont costauds, et nous les hommes de Cro-Magnon, les Homo sapiens, Cro-Magnon en Europe plus tard, qui sont très costauds aussi. Et bien ça, c'est pas dans ce livre, mais c'est dans un autre qui s'appelle La Marche. Je décris qu'effectivement, avec l'invention des agricultures, nous avons un spectre de choix alimentaire qui se restreint. On invente la sédentarité, on invente le travail. Et très clairement, nous perdons, en fait, depuis Cro-Magnon, qui est vous et moi, presque la moitié, enfin au moins un tiers de notre masse musculaire, de notre masse squelettique, et plus que cela, nous perdons 200 cm3 de cerveau.
Ah oui, c'est donc, plus embêtant, ça.
C'est pour ça qu'il y en a qui comprennent pas le réchauffement climatique, vous voyez. Donc, pardon, je peux pas m'en empêcher. Très clairement. Et donc, depuis la Seconde Guerre mondiale, on voit qu'on mène une espèce extrêmement plastique. Mmh. Et ce qu'invente le genre homo, et ça c'est important pour le monde qui vient, justement, c'est que nous avons inventé la deuxième coévolution. C'est-à-dire nos choix technologiques, leurs usages, change l'expression de nos gènes, sélectionne même nos gènes et aussi notre plasticité. Et donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on entre dans une troisième coévolution et ça va certainement aller assez vite.
Pascal Pic, Premiers Hommes, ça sort chez Flammarion et c'est une grande saga qui nous plonge dans 35 millions d'années d'histoire. Merci beaucoup à vous d'être venu aujourd'hui dans la Tête au Carré.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Dominique Dupagne et sa piqûre. Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Octobre Rose vient de débuter alors que devient la grande concertation de Marisol Touraine lancée en 2015 autour du dépistage du cancer du sein.
Bah comme vous le savez Mathieu, il y a une controverse scientifique autour de ce dépistage par mammographie. C'est un dépistage systématique qui aboutit à des traitements lourds pour des petites lésions cancéreuses qui n'auraient jamais évolué. On en a parlé récemment pour le cancer de la thyroïde. Le concept de démocratie sanitaire étant à la mode, Marisol Touraine a confié à l'Institut National du Cancer, un cas pour les intimes, la mise en œuvre d'une grande consultation publique pilotée par un comité d'orientation. En pratique, un groupe de personnalités qualifiées, mais n'ayant pas de lien avec la polémique. Ce comité était chargé d'étudier les données disponibles et d'auditionner les différents acteurs de la controverse, y compris de simples citoyennes qui veulent savoir si elles ont raison de se laisser aplatir et irradier les seins tous les deux ans. Et le comité d'orientation a rendu son rapport à la mi-septembre à la ministre. Il a été mis en ligne mardi.
Et alors, que dit ce rapport, Dominique ?
Eh bien Mathieu, c'est un véritable pavé dans la mare de l'INCa. Le comité est très critique vis-à-vis du dépistage organisé, dont il constate le faible bénéfice et les inconvénients trop peu connus des femmes concernées. Les membres du comité soulignent le flou inquiétant qui règne autour des données scientifiques. Je vous prends un exemple. Sur 1000 femmes qui réalisent régulièrement une mammographie pendant 20 ans, combien sont sauvées d'un cancer du sein mortel par ce dépistage ? Eh bien, la réponse varie entre 1 et 9, suivant l'interprétation et la sélection des travaux scientifiques. 1 à 9 sur 1000. De même, chez ces 1000 femmes, combien vont être exposées à un surdiagnostic et donc à un traitement lourd et intempestif à cause du dépistage ? Eh bien, 5 et 20. Et ça, trop de femmes l'ignorent. Ce qui domine pour le comité d'orientation, qui ne prétend pas arbitrer la polémique scientifique, c'est que l'information apportée actuellement aux femmes n'est pas objective et ne leur permet pas de faire un choix éclairé. Par ailleurs, du fait de ces risques et de ces modestes bénéfices, le comité propose que le dépistage systématisé soit supprimé ou réorienté pour être débattu individuellement. Chaque femme prendrait sa décision dans le cadre d'une consultation spécifique avec son médecin traitant. Tout cela paraît frapper au coin du bon sens et cette concertation aurait pu constituer un bel exemple de mise en application de la démocratie sanitaire.
Pourquoi aurait pu ?
Eh bien, parce que ces conclusions ne sont pas du tout celles qu'attendaient le grand INCa et la ministre. Cette dernière, dans un communiqué de presse récent, a réaffirmé l'importance et l'intérêt du dépistage avant de parler de le refondre. Bref, ce rapport, comme d'autres, servira probablement à caler les armoires du ministère, mais la mobilisation a été telle autour de la concertation que l'INCa et la ministre vont avoir beaucoup de mal à ignorer ce travail fondamental. On en saura plus à la fin de l'année avec les décisions concrètes annoncées par Marisol Touraine.
Voilà. Information qu'on peut retrouver sur le site de Chronique Santé Polémique ou sur votre blog à tout point. Alors, juste un mot très vite, Pascal Pic, parce que vous êtes président du comité d'éthique sur le cancer du sein.
Enfin, un comité d'éthique. Mais là, une approche comme celle-là, qui est plus évolutionniste, par exemple, si on fait une petite, un petit prélèvement à un endroit donné, on peut faire une chimiothérapie, mais on peut sélectionner d'autres souches qui sont plus virulentes. Donc, il y a toute une approche nouvelle qu'on appelle l'approche de la médecine évolutionniste sur ces aspects qui touchent déjà, évidemment, le dépistage dès le départ. Donc, il y a d'autres façons d'approcher ces questions très difficile, bien sûr.
Merci beaucoup. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
Affaires sensibles, quel sera le thème aujourd'hui, Fabrice ?
Françoise Dolto. Ah, aujourd'hui et même demain, d'ailleurs, dans la fiction, et avec la même invitée, Elisabeth Roudinesco, qui est l'historienne de la psychanalyse en France et qui est psychanalyste elle-même.
Et ce sera juste après les infos.